France Culture.
Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Meilleurs vœux, Stanislas.
Merci Quentin, bonsoir à tous. L'urgence avant la reconstruction, Mayotte continue à panser ses plaies. 3 semaines après les ravages du cyclone Chido, le bilan reste le même. 39 morts et des milliers de personnes n'ont plus d'abri pour vivre. Page spéciale dans ce journal avec nos envoyés spéciaux Mathieu Laurent et Gilles Gallinaro. Gérald Darmanin veut renforcer l'isolement des narcotrafiquants en détention. En visite à Marseille, le nouveau ministre de la Justice avait les accents du ministre de l'Intérieur qu'il a été. Le reportage de Mathilde Vinceneux dans cette édition. La Nouvelle-Orléans accueille ce soir le Sugar Bowl, un événement de football américain, 24 heures après l'attentat dans le quartier français qui a fait 15 morts. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Loïc Loury. Elon Musk s'en prend au Premier ministre britannique Keir Starmer, qui dirigerait un État policier et tyrannique. Le milliardaire pro-Trump, qui apporte aussi son soutien à l'activiste d'extrême droite Tommy Robinson, aujourd'hui incarcéré au Royaume-Uni. C'est finalement la semaine prochaine que sera présenté en Conseil des ministres le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Le texte devait être initialement examiné demain, vendredi, lors du premier conseil de l'année. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé François Bayrou pendant sa visite sur l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Mais Matignon assure que ce report de quelques jours n'aura aucun impact sur son examen au Parlement. À Mayotte, le bilan officiel du cyclone reste de 39 morts et plus de 5600 blessés, sans compter les milliers de sans-abri qui ont tout perdu dans la catastrophe. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Mayotte, Mathieu Laurent.
Bonsoir. Bonsoir.
Et on va vous retrouver dans un instant pour faire le point sur la situation à Mayotte. Mais on va d'abord écouter votre reportage à Mamoudzou, le chef-lieu de l'archipel. Vous avez rencontré Fatima, qui avait trouvé refuge au lycée des Lumières du quartier de Kaweni. Elle est aujourd'hui à la rue et c'est loin d'être un cas isolé.
Plaquée contre un mur qui lui offre une bande d'ombre, elle tient son plus jeune enfant dans ses bras. Il dort. Son frère est couché sur une planche.
Là, je suis devenue SDF.
Je suis dehors avec les enfants. On n'a pas l'endroit pour vivre.
Fatima, avant le cyclone, avait une case au pied de Kaweni, dans la cour d'une petite maison. La propriétaire l'a congédiée. Le cyclone est passé. Fatima n'a eu d'autre issue que de compter sur le réseau de solidarité de proximité pour un repas de temps à autre, mais...
On est dormi dans la rue, ça fait déjà 3e jour. On a tout quitté là. Je n'ai pas de famille ici pour m'accueillir. Je suis dehors.
Elle s'était réfugiée au lycée des Lumières, mais le maire de Mamoudzou et le rectorat ont demandé l'évacuation de l'établissement, sérieusement endommagé.
En fait, il n'y a rien au lycée. Même les salles qui n'étaient pas ouvertes, ils sont tout cassés. Ils ont volé leurs ordinateurs, même les chaises. Il n'y a rien au lycée, il n'y a presque rien. Ils ont brûlé le maternel.
Et ce n'est pas faux d'être en règle depuis son arrivée à Mayotte au tout début des années 2000.
Depuis que je suis à Mayotte, j'ai déjà utilisé 10 cartes de séjour. On ne m'a jamais donné une carte de séjour de 10 ans. Mais mes enfants, ils sont français, ils ont leur passeport, leur carte d'identité. Je n'ai jamais eu de chance pour avoir de boulot. Je compte toujours sur leur terre.
Le père des 2 enfants, dont elle a encore la charge, polygame, veille sur son autre famille. Fatima n'a ni frère ni cousin pour voler à son secours.
Il est en train de chercher pour voir si elle peut trouver une petite maison quelque part. Il me dit qu'il est en train de chercher, mais je ne le crois pas. Parce que même là, j'étais en train de l'appeler, mais il ne me répond même pas.
Alors qui pourrait construire un abri de fortune pour Fatima, survivante du cyclone et naufragée sociale?
Voilà, on vous retrouve Mathieu Laurent en direct de Mayotte. Alors Mathieu, première question, la reconstruction a-t-elle commencé sur l'archipel ou bien s'agit-il encore de gérer l'urgence?
L'urgence? Non, vous voulez dire les urgences, à commencer par celle vitale qui consiste à faire parvenir eau et nourriture au plus grand nombre, essentiellement dans les bangas, dans les principaux bidonvilles du département, comme dans le nord de Grande-Terre. On en est encore très loin et ailleurs, c'est encore très compliqué. Dans une commune de 20 000 habitants, comme celle de Wangani, au centre de l'île, dont la population a plus que doublé depuis 2017, pas de distribution de vivres aujourd'hui. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Une autre urgence qui incombe cette fois au service de la voirie. On ne voit pas comment ils pourront s'en sortir sans aide extérieure, assainir la voie publique couverte de monceaux, de poubelles éventrées, de détritus, de matériaux brisés, d'appareils électroménagers hors d'usage, des monceaux de 8 à 10 mètres de haut par endroit. Répondre à cette urgence, c'est bien sûr écarter tout risque sanitaire, éviter aux plus vulnérables des maladies hydriques, dont le choléra, et à condition d'aller très vite. Rappelons maintenant que Mayotte fait l'objet d'un arrêté de calamité naturelle exceptionnelle. Eh bien, 20 jours après le cyclone, il n'a rien perdu de sa pertinence.
Mathieu, comment les Mahorais s'organisent-ils pour faire face à cette urgence, ces urgences, 3 semaines après le cyclone ?
Mayotte se relève. Je vous mets au défi de marcher dans un quartier sans croiser des hommes en train de réparer les lignes électriques, de reprendre la maçonnerie des terrasses, de longer une route sans assister à un balai de tractopelles, de ne pas baisser la voix parce qu'il ne sert à rien de hausser le ton face à une chorale de tronçonneuses. Mayotte travaille à faire place nette, avec un calendrier toutefois qui sème de l'anxiété. Comment imaginer une rentrée scolaire progressive le 13 janvier ? Aucun établissement scolaire n'a échappé aux rafales du cyclone et très peu de réparations engagées. D'ailleurs, il y a tant à faire. Mayotte, vous l'aurez compris, se relève petit à petit, à croire de nouveau au matin. Mais quand les Mahorais se souviennent du chaos du 14 décembre, eh bien ça se termine encore dans les larmes. Et elles viennent si lentement vous balayez du regard les collines et les combes hirsutes. Les rares arbres encore debout portent en écharpe les tôles des bangas.
Merci Mathieu Laurent, direct de Mayotte avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Gérald Darmanin veut taper les narcotrafiquants au portefeuille. Déclaration du nouveau ministre de la Justice en déplacement aujourd'hui à Marseille. Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, les trafiquants auraient désormais les moyens de corrompre ou de menacer les agents pénitentiaires. Même condamnés à des dizaines d'années de prison, les grands délinquants continueraient leur trafic en détention. À Marseille, Gérald Darmanin s'est rendu au tribunal judiciaire, mais aussi à la prison des Baumettes. C'est un reportage de Mathilde Vinceneux.
Au tribunal, Gérald Darmanin est revenu sur sa mesure choc annoncée il y a quelques jours, celle de renforcer l'isolement des 100 plus gros narcotrafiquants détenus pour les empêcher de continuer à gérer leur trafic depuis les prisons. Le ministre de la Justice veut créer pour eux des cellules types.
J'ai proposé que nous fassions d'abord une sorte d'appartement témoin en prenant les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons, en isolant ces personnes particulièrement, en les fouillant particulièrement et en brouillant particulièrement leurs communications. Donc nous devons discriminer mieux les détenus.
Devant la prison des Baumettes, où s'est rendu le garde des Sceaux, la mesure est saluée par cette proche de détenue. Johanna vient de rendre visite à son frère au parloir. Il a été condamné à 12 ans de réclusion pour cambriolage. Son frère qui ne sort plus en promenade, terrifié, dit-elle, par les narcotrafiquants.
Ils sont tous mélangés entre eux. Il en faut des places pour justement pas mettre tout le monde dans le même cas. Ceux qui vendent la drogue et ceux qui tuent des gens, parce que ça crée, maintenant ils vous charclent pour rien.
Mais encore faut-il avoir les moyens d'assurer un isolement strict, souffle Marc Berkane, représentant du syndicat des surveillants pénitentiaires au Baumettes.
La prise en charge, comme l'a décrit le ministre, c'est de la communication. On ne peut pas avoir une gestion étanche 100%, ce n'est pas possible en termes de bâti et en termes de moyens humains.
Au Baumettes, la surpopulation carcérale dépasse les 180% et il est facile de continuer de gérer son trafic, explique ce surveillant. Même à l'isolement, il suffit qu'un détenu crie par la fenêtre pour que les autres l'entendent.
Mathilde Vinceneux à Marseille. C'est une affaire emblématique de la désindustrialisation de la France. À Caudan, dans le Morbihan, les 350 salariés des fonderies de Bretagne pourraient bien perdre leur emploi après le désengagement de Renault. Le constructeur a en effet décidé de délocaliser la production des pièces automobiles qu'il faisait fabriquer jusque-là dans son ancienne filiale. Il y avait bien un repreneur pour les fonderies, un fonds d'investissement allemand dont l'offre était soutenue par l'Élysée, le gouvernement et les élus bretons. Mais avec la fin des commandes de Renault, la reprise a capoté. Jérôme Dupont, le directeur général des fonderies de Bretagne, dénonce ce soir la responsabilité du constructeur dans cet échec économique et social.
Depuis fin juillet, Renault a tout fait pour dégoûter le repreneur potentiel. Au mois d'août, ils ont arrêté de négocier en disant qu'ils étaient en vacances. Et après, ils ont trouvé tous les subterfuges pour tenter d'expliquer que le projet tenait pas la route. Malgré tout, le repreneur s'est accroché à son projet. Et Renault a attendu le tout dernier moment, la veille des vacances de Noël. Donc ça s'est passé le 20 décembre à 11h du matin, les salariés partant en vacances le 20 décembre à midi. J'ai réuni l'ensemble des salariés pour leur annoncer que Renault, définitivement... ne souhaitait pas donner de visibilité sur les volumes et donc que ça venait mettre un terme au projet de reprise. Suite à ça, d'ailleurs, j'ai adressé donc de la part des salariés de la fonderie de Bretagne des vœux de joyeux Noël au président de Renault. Et je lui ai dit « Monsieur le Président, les salariés de fonderie de Bretagne se joignent à moi pour vous souhaiter avec quelques jours d'avance un joyeux Noël. Ils tenteront de garder le sourire face à la crèche lorsqu'ils ouvriront le magnifique cadeau que vous leur fîtes. Même durant la Grande Guerre, les combattants surent observer la trêve de Noël. Et j'ai trouvé d'une violence terrible le fait qu'on attende, 4 jours avant Noël, d'annoncer quelque chose que Renault savait depuis très longtemps déjà.
Jérôme Dupont, directeur général des Fonderies de Bretagne, il répondait à Wafia Kenich. De son côté, Renault impute l'échec de la reprise au désengagement soudain du fonds allemand Private Assets. Le groupe Renault qui explique qu'il avait pourtant confirmé son engagement à hauteur de 65% du financement du projet de reprise. Au lendemain de l'attentat de la Nouvelle-Orléans, Donald Trump dénonce les frontières ouvertes et la vermine violente qui s'est infiltrée aux États-Unis. Notre pays est la risée du monde entier, affirme le futur président américain sur son réseau Truth Social. Et pourtant, l'auteur de l'attaque n'a rien à voir avec l'immigration. Shamsoud Din Jabbar est un Américain converti à l'islam, né au Texas. Influencé par l'État islamique, il a tué 15 personnes dans la nuit du Nouvel An dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Un drame qui a bien sûr poussé les autorités américaines à renforcer les mesures de sécurité dans la ville. La Nouvelle-Orléans qui doit accueillir ce soir le Sugar Bowl, sorte de finale du championnat de football américain universitaire. C'est un reportage de notre envoyé spécial Loïc Loury.
À quelques heures du Sugar Bowl, les supporters trépignent, heureux de pouvoir applaudir leurs équipes. Elisabeth est venue encourager l'Université Notre-Dame, mais elle n'oublie pas la tragédie du Nouvel An.
J'apprécie juste le fait qu'on se retrouve tous ensemble. Évidemment, on va garder ce drame dans nos cœurs et nos esprits, mais il faut aller de l'avant et on est là pour encourager notre équipe du mieux qu'on peut.
Autour du Superdome, des blocs de béton et des barrières ont été déployés. La police est à chaque coin de rue. Josh, aux couleurs des Bulldogs de Géorgie, lui s'étonne que le match n'ait été reporté que de 24 heures.
Parce que la police est tellement mobilisée dans le centre qu'elle soit en mesure de venir ici pour s'occuper de 70 000 supporters. Je suis sûr que c'est un défi, mais je pense que c'était la bonne chose de décaler le match à aujourd'hui, et même peut-être à plus tard.
Inquiet, il ne l'est pas plus que Dave, un fan de l'équipe adverse.
Je suis un vétéran de l'armée, je n'ai pas peur du tout. Je sais que la ville a plus ou moins tout bouclé, alors ça va aller. Ça m'a coûté un peu plus cher de rester à la Nouvelle-Orléans pour le match, mais à part ça, je suis heureux que la ville ait agi pour que tout le monde soit en sécurité.
Et le 9 février, ce même Superdome accueillera cette fois le Super Bowl, un événement autrement plus important.
Loïc Loury à la Nouvelle-Orléans. Le FBI continue à enquêter sur d'éventuelles complicités dont aurait bénéficié Shamsoud Din Jabbar. Mais pour l'instant, il n'y a ni suspect ni complice connu, affirme la chef de la police de la ville, Anne Kirkpatrick. Jusqu'où ira l'entrisme d'Elon Musk dans la politique européenne? Le milliardaire trumpiste s'était illustré ces derniers jours en soutenant l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, crédité d'environ 20% des voix avant les législatives outre-Rhin fin février. Au Royaume-Uni, il avait aussi apporté son soutien au Reform UK, le parti anti-immigration de Nigel Farage. Nouvel épisode aujourd'hui sur son réseau X. Elon Musk réclame la libération de Tommy Robinson, un activiste d'extrême droite aujourd'hui incarcéré pour avoir diffamé un réfugié syrien. L'occasion pour le patron de Tesla d'attaquer les travaillistes au pouvoir à Londres. C'est une correspondance de Sarah Menaille.
Depuis des mois, c'est au gouvernement de Keir Starmer que le fondateur de X s'en prend, reprochant au Premier ministre britannique d'avoir trop durement réprimé les émeutes anti-migrants de cet été. Musk va même jusqu'à dire que Starmer dirige désormais un état policier tyrannique. Ce jeudi, c'est donc à Tommy Robinson que le futur ministre de Donald Trump apporte son soutien avec ce tweet « Libérez Tommy Robinson ». Figure de l'extrême droite britannique et fondateur du mouvement identitaire English Defence League, Robinson purge actuellement à l'isolement une peine de 18 mois de prison, condamné fin octobre pour avoir violé une décision de justice qui lui interdisait de diffuser l'un de ses documentaires. Aujourd'hui, à Londres, le parti au pouvoir, comme l'opposition conservatrice, s'inquiète de cette ingérence américaine, des commentaires de Musk et de sa proximité affichée avec le parti anti-immigration Reform UK, dont il a rencontré il y a 2 semaines en Floride le leader Nigel Farage. Selon la presse américaine, le milliardaire envisagerait même de faire un don conséquent au parti d'extrême droite de Farage.
Sarah Menaille depuis Londres, Elon Musk qui évoque aussi un énorme scandale d'exploitation sexuelle instrumentalisé par Tommy Robinson, plus de 1500 jeunes filles britanniques exploitées par des hommes d'origine pakistanaise dans la ville de Rotherham à la fin des années 2000. Pourquoi Tommy Robinson est en détention à l'isolement pour avoir dit la vérité? Interroge le milliardaire trumpiste sur sur X. Ce nouveau drame de l'immigration en Méditerranée, 27 morts hier dans le naufrage de deux embarcations de fortune au large de la Tunisie. 83 autres migrants ont pu être secourus. Originaires d'Afrique subsaharienne, ces migrants étaient partis de Sfax dans la nuit du Nouvel An, sans doute dans l'espoir de rejoindre l'île italienne de Lampedusa, située à environ 150 km des côtes tunisiennes. Déjà interdite en Israël, Al Jazeera est désormais également suspendue dans les territoires palestiniens. Décision de l'autorité palestinienne qui reproche à la chaîne d'information qatari de faire de l'ingérence. En réalité, le gouvernement de Ramallah reproche à Al Jazeera sa couverture d'une opération militaire interne à la Palestine. Opération visant à désarmer des groupes militaires parmi lesquels le Hamas. Les explications d'Étienne Monin.
Et ce qui est derrière cette situation de crise, c'est sans doute la couverture par Al Jazeera du ménage interne que mène depuis des semaines l'autorité palestinienne dans le camp de réfugiés de
Jenin.
Depuis la mi-décembre, les forces de sécurité affrontent les groupes armés qui dirigent le camp, parmi lesquels se trouvent le Hamas et le djihad islamique, qui parlent aujourd'hui de graves violations de la liberté de la presse. L'opération de l'autorité palestinienne a déjà fait une dizaine de morts à Jenin. Elle est critiquée en Palestine. Mahmoud Abbas, le président, est accusé de faire le jeu des Israéliens pour gagner la confiance du futur président américain et peut-être jouer un rôle dans la gestion de l'après-guerre à Gaza. Al Jazeera est accusé d'incitation à la sédition. L'éditorialiste de la chaîne qatari, Marwan Bichara, en retour, ne mâche pas ses mots.
L'autorité palestinienne est devenue l'otage du gouvernement israélien. Elle veut plaire au gouvernement fasciste d'Israël. Elle veut apaiser le gouvernement israélien pour être récompensée avec peut-être encore plus de normalisation pour l'autorité palestinienne.
Avec cette suspension, l'autorité palestinienne s'aligne sur Israël qui a interdit la chaîne en mai dernier. L'ONU demande l'annulation de cette décision.
Étienne Monin de la rédaction internationale de Radio France. En Corée du Sud, le président suspendu de ses fonctions par le Parlement pourrait être interpellé aujourd'hui, selon l'agence de presse Yonhap. Yoon Suk-yeol est accusé de rébellion et d'abus de pouvoir après avoir tenté d'imposer la loi martiale début décembre. Il devait être interrogé, mais il ne s'est pas présenté aux multiples convocations des enquêteurs. Même suspendu, le chef de l'État sud-coréen reste toujours officiellement en poste et il est soutenu par des manifestants opposition ultra-conservatrice. Manifestants qui sont venus le défendre devant sa résidence officielle située dans le quartier de Hanamdong à Séoul. C'est un reportage sur place de Camille Ruiz.
Devant la résidence officielle du président, les manifestants agitent des drapeaux sud-coréens et américains. Une bannière appelle à dissoudre l'Assemblée nationale. Kang Tae, 60 ans, est venu s'opposer au mandat d'arrêt délivré contre Yoon Suk-yeol.
Si ce processus illégal nous enlève notre président, s'il nous prend notre liberté, nous avons le devoir de l'arrêter, même s'il faut aller se battre pour ça. C'est ce que je suis venu faire ici. S'il y a un prix à payer pour défendre le président Yoon Suk-yeol, je le payerai.
Paum Sok, entrée militaire et chapeau, se tient parmi les manifestants.
Notre peuple doit s'opposer à cette arrestation et la faire échouer. Si on ne réussit pas, notre pays tombera dans le communisme. Nous faisons face à un criminel de guerre, menteur, tyrannique, Lee Jae-myung, qui est sous la direction de la Chine et de la Corée du Nord. Et il essaye de devenir le président de notre pays.
L'ancien soldat en est convaincu. Lee Jae-myung, leader du principal parti d'opposition, le Parti démocrate, organise un complot avec l'aide de Pékin et Pyongyang. Une théorie sans fondement véhiculée par les youtubeurs sud-coréens d'extrême droite, d'après les médias locaux. Sur les coups de 17h, heure locale, une trentaine de manifestants franchissent une barrière de police. Les forces de l'ordre dispersent le groupe de force. Mercredi 1er janvier, les enquêteurs ont prévenu toute personne qui s'oppose à l'arrestation du président Yoon Suk-yeol pourra être poursuivie.
Camille Ruiz, correspondante en Corée du Sud. Un mot du temps, demain, un ciel pluvieux sur le sud-ouest jusqu'au Poitou-Charentes, des pluies qui s'intensifieront l'après-midi sur la façade atlantique, un temps ensoleillé, venteux sur les régions méditerranéennes. Au nord, la journée sera grise et froide et il pourrait neiger en montagne sur le massif central et les Alpes dès 400 mètres d'altitude. Demain matin, les gelées seront fréquentes jusqu'à moins 7 dans le Jura. L'après-midi, il fera entre 0 et 6 degrés sur la moitié nord, de 8 à 15 au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique, il y avait Marie-Claire Oumabadi.